Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Fait des sacrifices, qui est mis à part pour Dieu. Vas-y. Ce qu'il fait, c'est pas pour Dieu. C'est pour Dieu, c'est pas pour lui, excuse. Ouais. Excellent. Autre chose? Qu'est-ce qu'un chrétien transformé? Il voit les choses de façon différente. Ouais. C'est quoi un chrétien transformé? Sa vieille vie est en arrière. Il y a une nouvelle vie avec le Seigneur. C'est quoi l'image d'un chrétien transformé? Quoi? Le Seigneur guide sa vie. Quoi d'autre? Hein? Il a accepté le pardon. Oui. Excellent. Qu'est-ce qu'un chrétien qui profite de la puissance de Dieu? Qu'est-ce qu'un chrétien qui profite de la puissance de Dieu? Un profiteur! Non, ce que je veux dire, c'est ouais, qui prend avantage. OK. Ouais. Qui utilise d'abord? Hein? Quelqu'un qui fait confiance à Dieu, qui a la foi, oui. Qu'est-ce qu'un chrétien qui se confie dans la puissance de Dieu? Comme un enfant, il se comporte envers son père. Donc, la confiance, good. Excellent. All right. Toutes ces idées-là sont super bonnes. Beaucoup des idées sont dans ce qu'il fait. Puis c'est correct parce que c'est quand même, c'est là qu'on voit une personne qui est consacrée et nécessairement on va la voir par qu'est-ce qu'elle fait. Une personne qui est transformée aussi, on va dire, crime, avant il était comme ça, à ce temps, il est comme ça, sa façon de penser a changé, mais ça se traduit par une nouvelle façon de vivre aussi, là. Mais moi, aujourd'hui, je veux qu'on rouvre le capot, comme on a entendu Patrick, c'est une mise à part par Dieu, c'est une mise à part pour Dieu aussi, donc c'est... Toute consécration, toute transformation, toute la puissance de la vie chrétienne se passe sous le capot. Et donc, ce n'est pas ma vie devant les hommes, mais c'est ma vie avec Dieu, en communion avec Dieu, qui profite de la puissance du Saint-Esprit pour vivre une vie surnaturelle, une vie chrétienne normale qui dépend de la puissance de Dieu. Sans lui, je ne peux rien faire, dans Jean 15, 5. Mais dans Philippiens, c'est écrit que par lui, on peut toutes choses. Donc, on va essayer de comprendre ça aujourd'hui. Le dernier message, on s'était laissé avec l'idée que la loi, c'est-à-dire faire extérieurement des choses, que ce soit consacré, que ce soit avoir l'apparence, tu sais, d'être transformé, mais faire des choses, c'est la loi, elle nous amenait à un endroit où on désirait faire des choses pour Dieu, mais on n'en avait pas la force. Okay? Ça, c'est le meilleur que la loi peut faire. Si, admettons, aujourd'hui, on sort avec une liste de choses à faire pour plaire à Dieu, on va avoir full des désirs, comme le dessin qui est en arrière, mais on va sortir comme le gars, c'est-à-dire voulant faire le bien, mais pas capable de le faire comme on voudrait le faire ou comme Dieu s'attend qu'on le fasse aussi. Okay? Donc, la loi de Moïse, elle venait avec la promesse d'être béni. Fais ceci et tu vivras. Sauf que, l'homme devait se rendre compte au travers les centaines d'années, il devait se rendre compte que finalement, Dieu lui avait dit qu'il bénirait s'il ferait ça, mais il ne l'a pas fait, donc il ne peut pas être béni. Fait qu'il devait arriver à un endroit où cette loi-là devait arriver à maturité dans sa vie, à l'amener à un endroit où il réalise qu'il y a en lui le désir de faire le bien, mais il n'a pas la capacité de le faire comme il voudrait le faire. Il veut faire le bien, il ne le fait pas. Il ne veut pas faire le mal, puis il le fait quand même. Okay? Donc ça, c'est à peu près là que la loi nous laisse. Puis c'est dans ce dernier message-là qu'on a parlé justement de Paul qui parlait dans sa propre vie, de son désir de plaire à Dieu, mais de trouver en lui une loi qui agissait dans ses membres, qui était la loi du péché et de la mort et de la chair. La loi est bonne, mais la chair la rend sans force. C'est ce que Romains chapitre 8, verset 2 dit. La loi est bonne, mais la chair la rend sans force. Autrement dit, tout ce qu'on a énuméré tantôt, en apparence, c'est des beaux désirs de faire ces choses-là. Par contre, la loi ne me rend pas capable de vivre une vie qui plaît à Dieu et une vie qui est consacrée. C'est comme si la loi nous disait « fais ceci », mais elle nous enlevait les jambes pour le faire, ou les mains et les jambes pour le faire. Et puis, elle a atteint ça, ce rôle-là. Puis on a vu que la loi était comme un vieillard mourant qui meurt, puis qui dit « j'ai accompli ma job, maintenant va-t'en vers Jésus-Christ, parce que moi, je ne peux pas rien faire de plus que de dire que tu n'es pas capable de faire la loi. Okay? » Fait que c'est un peu ça que la loi, elle a vieilli. Hein? Les textes disent que la loi a vieilli, et même qu'elle a été crucifiée à la croix, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle a terminé là, puis Christ a continué, le Christ ressuscité a continué après ça, à partir de cette période-là. Donc aujourd'hui, dans mon dernier message, on a fini avec l'idée que Paul il dit dans Galates 2, au verset 20, « C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et là, maintenant, depuis que Christ est mort, on a reçu le pardon de nos péchés, depuis qu'il est ressuscité, on a reçu sa vie. Hein? Ma condamnation à la croix a permis d'avoir son pardon, mais sa résurrection me permet de vivre sa vie. Donc, il partage ma mort à la croix, puis moi, je partage sa vie maintenant. C'est ça qui est merveilleux. Et Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Hein, si je vis dans ma chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui est mort et qui s'est livré pour moi, quelque chose comme ça. Donc, aujourd'hui, Paul, maintenant, il va se tourner vers l'expérience des Galates, quand ils ont accepté le Seigneur, quand ils ont reçu la vie éternelle. On va regarder les versets 1 à 5 du chapitre 3, et il va se tourner à leur vie chrétienne, au début, quand ils ont accepté le Seigneur, puis ensuite, quand ils ont continué, puis les œuvres miraculeuses qui se passent dans leur vie, puis il va les questionner, il va dire, « Dites-moi, c'est comme s'il disait, je m'assis là, venez ici, et enseignez-moi. » Et il leur dit, dans le fond, il va leur dire, votre salut, là, votre salut, puis votre croissance, là, dans votre marche chrétienne, là, puis l'intervention puissante de Dieu dans votre vie, là, toutes ces choses-là, là, ça vient-tu du fait que vous avez été consacré, que vous avez des mérites, que vous avez accompli quelque chose qui fait que Dieu dit, oh, j'ai pas le choix de sauver lui. Ah, j'ai pas le choix, lui, de l'amener, tu sais, il va grandir comme ça, puis ah, j'ai pas le choix d'intervenir, parce que regarde sa marche, regarde comment il a tout ce qu'il a fait. Est-ce que ça vient de nos mérites? Et le passage, c'est un questionnement sur ça, puis il y a aussi des réponses dans ce passage-là. En fait, à la fin de mon message aujourd'hui, normalement, dans les cinq versets, on va avoir compris que le salut, la croissance de maturité, puis l'intervention puissante de Dieu dans notre vie se fait toujours de la part de Dieu, par sa grâce, au moyen de notre foi. Ça commence, le salut commence comme ça. Si je veux grandir quelque peu, maturer dans ma vie chrétienne, puis si je veux voir les œuvres miraculeuses de Dieu, contempler les interventions de Dieu dans ma vie, ça va toujours être sur une base de grâce. C'est-à-dire que Dieu va toujours dealer avec moi sur la base de sa grâce et non pas de mes mérites, et c'est au moyen de la foi. Alors, on va avancer un petit peu dans ce passage-là. Le titre du message, « Commencer, continuer et contempler avec le Saint-Esprit ». On va prier. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a dans ta parole, Seigneur. prends le temps, Seigneur, de m'arrêter pour te demander ton secours, te demander que le Saint-Esprit que tu nous as donné au moment où on a cru, le Saint-Esprit aussi qui nous accomplit avec des actes merveilleux dans le ministère, celui qui nous transforme en l'image de Jésus-Christ par le fruit qu'il fait pousser en nous, puisse avoir la possibilité aujourd'hui, durant ce message, de trouver la foi. La foi dans la parole de Dieu. Excusez. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, chacun dans votre vie, mais je veux nous placer devant Dieu pour que, par sa grâce, il puisse agir, par son esprit, interagir avec notre foi ce matin, puis parce que la parole de Dieu va être prêchée. Je te prie, Seigneur, que tu révèles les secrets de nos cœurs. Puis quand tu les révèles, qu'on ne se sauve pas en courant, qu'on n'accuse pas personne d'autre, mais qu'on puisse dire, OK, si tu me montres quelque chose, c'est que tu veux venir me secourir dans cet endroit-là. C'est que tu veux venir me fortifier dans cet aspect-là de ma vie chrétienne pour que je porte du fruit pour toi, pour que je puisse voir tes œuvres merveilleuses, que je puisse voir l'aide du Saint-Esprit venir. Montre-nous ce qu'il y a sous le capot, Seigneur. Puis pas ce qu'on voudrait qu'il y ait en dessous du capot, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous du capot? Est-ce qu'on se confie en toi, Père? Est-ce qu'on marche dans la foi? Tu nous dis par l'apôtre Paul, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Bon, est-ce qu'on est dans la foi, Père? Fortifie-moi, Père. Amen. OK, good. On va lire le passage, chapitre 3, versets 1 à 5. Si vous n'avez pas tourné, vous pouvez tourner avec moi. Merci pour l'eau. On va les lire, les cinq passages, puis après ça, on va revenir comme verset par verset pour regarder un petit peu de quoi ça parle. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié? C'est une question. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ben, je vais avoir besoin que tu prennes le micro pour ta lecture. Si tu veux venir le chercher, ça sera pas en un, parfait. Ça ne sera pas même long que je vais te faire lire un texte, d'accord? Prépare-toi. Avant de lire le passage, d'étudier le passage qu'on vient de lire, on va regarder un petit peu la culture en Asie mineure au temps de l'apôtre Paul, okay? De la jeune Église. Donc, l'Asie mineure, il y a plus à l'ouest un petit peu Galate et un petit peu plus à l'est, je pense c'est 200 ou 300 kilomètres, il y a Éphèse et Iconium et Laodicée, plus vers l'est de l'Asie. On va lire le contexte, puis là, ce que Ben va nous lire, c'est Actes 19, 1 à 20, mais ça ne se passe pas à Galate, ça se passe à Éphèse. Mais quand même, vous allez voir les influences qui agissaient sur l'Asie mineure de ce temps.
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juif, un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force.
Merci. Donc, dans ce passage-là, ça se passe quelques mois ou années plus tard, que quand Paul est allé voir les Galates, mais ça nous montre quand même en Asie qu'est-ce qui se passe là un petit peu. On voit qu'il y a beaucoup d'enseignements de la parole de Dieu, que la parole est enseignée avec puissance. On voit aussi qu'il y a de l'opposition. À un moment donné, ils sont obligés de se retirer de la synagogue, aller dans les maisons, mais ils vont continuer à enseigner la parole de Dieu. Puis il va avoir, accompagnant la prédication de la foi ou la prédication de Paul, il va avoir des guérisons. En tout cas, les malades qui sont malades à cause de la présence démoniaque, c'est écrit « les démons sortent d'eux et guérissaient de leur maladie ». Et on voit donc des exorcismes. Et on voit même des gens qui tentent d'imiter leur exorcisme. Les fils de Sheva, qui sont les fils du sacrificateur, qui avaient tendance à faire des rituels d'exorcisme. Et là, ils vont se faire déshabiller tout nus, virer bobette sur la tête, comme on dirait. Puis ils vont se faire dire, « Hey, on connaît Christ, on connaît Paul, mais toi, t'es qui? » Et là, on voit que tranquillement, on voit une différence entre le chrétien, qui est les apôtres qui font le ministère, puis ceux qui s'improvisent ou qui veulent venir dans le nom de Jésus que Paul prêche, ou dans le nom de Paul, ils n'ont pas la même autorité. Et une chose qu'on voit aussi à la fin du passage, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on le lise, c'est qu'il y a des reconnaissances publiques d'avoir été dans le tort. Les gens allaient sur la place publique, puis ils allaient admettre leur tort, puis ils n'allaient pas nécessairement avouer des péchés secrets, mais ce qu'ils ont fait sur la place publique, c'est de faire un autel, si on peut dire, un sacrifice, c'est qu'ils ont brûlé tous leurs livres de magie. Et la magie, à Éphèse, il y avait une école de magie qui consistait en fait à faire des enchantements et à jeter des sorts. On appelait, l'Antiquité, là, quand on retrouve des pièces archéologiques, tout ça, on appelait ça les caractères éphésiens. C'était quoi? C'était des amulettes, des petits bijoux, là, sur lesquels étaient écrits des textes pour se protéger de mauvais sorts. Okay? Donc, on pratiquait la magie de cette manière-là. On se protégeait des mauvais esprits. On se protégeait des mauvaises énergies, whatever, qui pouvaient venir contre nous autres. Et on inscrivait, c'était des petits pendentifs avec des inscriptions qu'on portait sur notre corps. On s'en servait aussi pour guérir des maladies, chasser des démons et se préserver du mal sous toutes ses formes. Et pourquoi est-ce qu'on les brûle? Pourquoi est-ce qu'on les brûle? Parce que c'était des arnaques, parce que c'était des fabulations, parce que c'était notre vie d'avant, ça. Et là, il voit que Paul prêche, puis je veux dire, on pogne un mouchoir qui a touché à la peau de Paul, puis je veux dire, les malades sont guéris. Là, on a affaire à la vraie puissance, la puissance du Dieu créateur qui vient intervenir. Tu sais. Fait que les Éphésiens ont éliminé ça de leur vie, la magie, ils ont brûlé, mais ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans d'enseignement, puis à un moment donné, ils ont dit, garde tout ça, là, on le brûle comme ça, on n'y reviendra pas non plus à notre vie d'avant. Hein? On ne reviendra pas à ces mauvais, ces imprécations-là ou cette magie-là. Donc, il faut comprendre aussi que l'Empire romain, au travers la culture grecque, se répandait partout. Et donc, la culture grecque était c'était des gens plus éduqués. Les Romains aussi étaient des gens qui étaient plus éduqués. Et donc, cette partie du monde voulait se dégager de leur ignorance parce que c'était l'ignorance qui avait fait qu'on croyait à toutes sortes de mythes comme ça. Hein? Et donc, il y avait cette idée de penser par soi-même, de ne plus être sous l'emprise de vieux concepts comme la magie, par exemple. Okay? Et donc, on se vantait de ne plus être ignorant puis d'avoir rejeté les mythes superstitieux. Et donc, une des superstitions, c'était l'œil mauvais. Qui connaît la superstition de l'œil mauvais? Ouais. Wow, c'est rare. Moi, je ne connaissais pas ça jusqu'à hier. Et donc, j'ai étudié pas mal et là, je grattais. Puis plus je grattais, plus je trouvais du stock. Et j'ai trouvé ça bien intéressant de voir que c'est un mythe qui a commencé, ou en tout cas qui trouve plus forte concentration autour de la mer Méditerranée. On le retrouve aussi en Turquie, en Éthiopie, au Pakistan, en Grèce, en Italie, en Espagne et en Amérique latine. C'est pas rien quand même. Ça date de plus de 5000 ans. Et on le retrouve aussi sur les avions. Ça ici, ça et ça, ce sont tous, ça s'appelle l'œil du mal. Et en fait, on le retrouve aussi dans l'islam, puis on le trouve dans le judaïsme aussi, ce concept-là. OK? Et donc, c'est un concept assez simple. C'est une personne, on le retrouve aussi sur des bateaux. Et je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Une personne jalouse devient avec un œil mauvais. Okay? Elle te jette un sort. Elle te regarde avec un œil mauvais et attire sur toi le malheur. On disait d'une personne qu'elle pouvait qui avait un œil mauvais qu'elle pouvait faire mourir un petit animal ou même un bébé. Okay? Et à cause qu'au Moyen-Orient, tout le monde a les yeux bruns, ben c'est quand c'est un œil bleu. Donc, c'est toujours reflété par un œil qui est bleu. Donc, vu que c'était rare, c'est comme il y avait quelque chose là de superstitieux par rapport au fait que si tu avais les yeux bleus, tu avais plus de pouvoir. Même dans les écrits rabbiniques, par exemple, dans l'éthique de nos pères, c'est la traduction du titre de l'œuvre juive, vous avez la source ici, le rabbin Eliezer dit « Un mauvais œil est pire qu'un mauvais ami, un mauvais voisin et un mauvais cœur. » Dans le judaïsme, on croyait qu'un bon œil désignait une attitude bonne, de bonne volonté et de gentillesse envers les autres et se réjouir du succès d'un autre. Le contraire, l'œil mauvais était considéré comme souffrir quand l'autre réussit. Hein? Souffrir quand l'autre réussit, puis se réjouir quand il souffre. Et lorsqu'on regarde le mot grec de sorcellerie, à la racine du mot, il y a le mot envier. Donc, la sorcellerie trouve sa racine dans envier l'autre, jaloux de l'autre. Et il y a ensorcelé, et c'est le passage ici, c'est ce qui est écrit, c'est « Qui est-ce qui vous a ensorcelé? » Vous avez peut-être fasciné dans votre Bible, mais dans le texte original, ça, même en anglais, ça le rend mieux. C'est « bewitch you » qui vous a « witch »,« bewitch » qui vous a ensorcelé. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que lorsqu'on étudie la Bible, on s'aperçoit que ce n'est pas les cultures des pays qui ont ajouté le concept de l'œil mauvais, mais c'est le contexte biblique. Elle vit que l'arbre était bon à manger et elle en mangea. Donc déjà, dès le début, il y a cette vision de l'homme qui est devenu mauvaise à cause de l'envie. Mais même avant, on lit dans Ézéchiel 28 que le malin, dans Ésaïe 14 aussi, que le diable qui était l'astre brillant, a voulu avoir plus. Il a voulu être comme Christ. Il a voulu être celui qui serait l'adoré. Hein? Et donc, il y a eu un œil mauvais. Il a voulu envier. Et lorsqu'on lit des cultures anciennes, comme Balak, qui veut faire maudire le peuple d'Israël, il va demander à Balaam de quoi? Il faut qu'il soit placé à un endroit où il les voit. Et lorsqu'il les voit, il doit prononcer une malédiction sur eux. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas jeune comme tradition, qui est vraiment intéressant. Jésus l'a employé lorsqu'il dit, par exemple, il y avait des employés qui avaient rentré à la première heure, dès le matin, tu sais, ceux qui travaillent tôt, ceux qui sont toujours à leur affaire, puis ceux qui ont veillé tard hier, puis qui se sont levés à 3 heures cet après-midi, puis que l'employeur est allé les chercher, puis il les a fait travailler, puis à la fin de la journée, il leur a donné le même salaire. Hein? Et ça l'a choqué ceux qui s'étaient levés la première heure. Puis le maître, qu'est-ce qu'il va dire? Voyez-vous d'un mauvais œil que je sois bon? Il était jaloux de ceux qui étaient rentrés à la dernière heure. Et ils ont eu un cœur mauvais. Souffrir parce que l'autre reçoit. Le frère du fils prodigue qui dit, j'ai travaillé à chaque jour, j'ai jamais abandonné mon poste, puis celui qui est allé dépenser ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu fais une fête. Et donc, cet œil-là, Jésus va nous dire, si ton œil est pour toi une occasion de chute, jette-le loin de toi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Encore, c'est dans un contexte de convoitise. Vraiment intéressant. Donc, au début, quand on lit le passage, on peut penser aux Galates dépourvus de sens qui vous a inoptisé. Mais c'est beaucoup plus que jeter de la poudre aux yeux en faisant de la magie, bien que les magiciens faisaient ça. Ceux qui faisaient les imprécations faisaient aussi de l'illusionnisme, où ils faisaient disparaître des choses devant les yeux des gens et puis leur faisaient comme... Puis quand il faisait des imprécations, on disait, hey, si c'est vrai qu'il a fait disparaître la chose, bien, s'il fait une imprécation, c'est aussi vrai. Donc, c'est quand même associé au passage. Donc, notre passage, Galates, chapitre 3, verset 1. « Aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné ou qui vous a ensorcelé, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? » Donc, je disais tantôt que les Galates avaient la prétention d'être plus instruits. D'être comme les gens de la Grèce, de la Grèce antique, les Romains. Ils avaient la fierté maintenant de penser par eux-mêmes, puis de savoir juger qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien, puis de séparer toutes ces choses-là. Ils se vantaient d'avoir la sagesse, d'avoir trouvé mieux. Ils sentaient qu'ils s'étaient affranchis enfin de la sorcellerie et de tous ces vieux mythes-là, de l'ignorance. Et Paul leur dit, « Vous êtes... » dépourvu de sens. Et le mot qu'il utilise dans l'original, c'est « vous avez une défectuosité morale », comme si vous étiez né de main. C'est comme si il y a de quoi qui ne marche pas dans votre capacité de discerner les choses. C'est fort ici. Alors qu'eux mettaient leur fierté dans la libre pensée, dans le fait que maintenant, ils étaient plus éduqués. Hein? Et donc, il dit « vous êtes... » Il y a quelque chose qui fait défaut, et c'est ici au sens moral, entre distinguer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Vous avez une défectuosité à ce niveau-là. Et donc, il leur dit ça, il dit, c'est comme s'il leur disait, vous avez pas ce qu'il faut pour réfléchir, vous avez été détruits d'une certaine manière. Vous avez une faiblesse à discerner, et ce qui est pourtant ce qu'ils se vantaient. Hein, d'être capable de discerner, de penser par eux-mêmes, tout ça. Et donc, le péché dans la vie des chrétiens de Galates, c'est qu'ils avaient perdu la capacité de percevoir que le sens de leur vie, c'était Jésus-Christ. Okay? Et c'était la grâce de Dieu. Et le texte dit, « Qui vous a fasciné ou jeté un mauvais sort? » qui vous a jeté un mauvais sort? Intéressant. C'est comme s'il disait, qui est le regard envieux, qui vous a regardé avec envie, puis qui vous a jeté un mauvais sort parce que ça leur faisait de quoi que vous ayez cette liberté-là. Dans le chapitre 2, verset 4, il dit que les judaïseurs, c'était des gens qui s'étaient introduits parmi eux puis qui épiaient leur liberté en Christ. Pourquoi? Ben, parce qu'ils avaient reçu le pardon de leurs péchés simplement en croyant. Ils étaient en règle avec Dieu simplement en croyant au message que Paul avait enseigné. Et Paul leur montre, dans le fond, qu'il y a des gens qui veulent attirer leur malheur parce qu'eux autres sont obligés de faire la loi, eux autres sont obligés de faire ci, eux autres sont obligés de faire ça pour être acceptables devant Dieu. Puis vous avez simplement accepté que Christ meurt sur la croix pour vous. Vous avez reçu le pardon et la vie en son nom, simplement en croyant. Et ces gens-là, dans le fond, c'est comme s'ils disaient, c'est qui ces gens-là qui sont tellement jaloux de ce que vous avez, qui ont attiré un malheur sur vous? Et en disant ça, il est en train de dire, vous n'êtes pas tout à fait sorti de votre ancienne mythologie. Vous êtes toujours, vous n'êtes pas protégé de leur mauvais sort. Fait qu'il leur dit, un, vous n'êtes pas si affranchi au niveau de la capacité intellectuelle. Deux, vous avez aussi, vous êtes encore dans les sujets au mauvais sort. Fait que là, ils jouent un petit peu ici. Là. Donc, ils se vantent d'être sages et ils ont reçu des enseignements et ils n'ont pas été capables de juger quand ces enseignements, nouveaux enseignements sont rentrés dans leur vie, les judaïseurs, qui leur disaient que ce n'était pas suffisant d'accepter Christ, il fallait faire ceci et cela, hein? Pour être une personne consacrée puis être en règle avec Dieu, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et là, ils ont reçu ça. Puis leur défectuosité morale a été qu'ils ont accepté un nouvel enseignement qui les a sortis complètement du message de la grâce sans s'en apercevoir. Ils ont gobé tout ça et ils sont tombés sous le sort des judaïseurs. C'est-à-dire, ils ont perdu la joie d'avoir leur péché pardonné et de savoir que tout est par grâce et par la croix seulement. Eux qui se pensaient affranchis des mauvais sorts, ils sont dans le malheur à cause d'un mauvais œil sur eux. Pourquoi est-ce qu'on serait jaloux des Galates si nous, on serait des judaïseurs? C'est simple, à cause de la vie éternelle. Hein? À cause de la vie éternelle. La vie éternelle, elle nous est donnée quand on entend l'Évangile puis qu'on décide d'y croire. On l'entend, l'Évangile, et qu'on décide d'y croire, et qu'on place notre foi en Jésus-Christ, et qu'est-ce qu'il a fait? À partir de ce moment-là, il se passe que la grâce de Dieu nous est donnée sous la forme de la vie éternelle. Dans le passage qu'on va lire, c'est le Saint-Esprit qui est placé en nous au moment où on a cru. Le pardon en échange d'une œuvre, mais pas la mienne. Le pardon en échange d'une œuvre, mais pas la mienne. Mes œuvres m'ont fait que je méritais d'être crucifié. Son œuvre a permis que je sois pardonné. Donc, c'est moi qui devrais être là. C'est moi qui devrais payer. Donc, mes œuvres à moi, la seule chose qu'elles peuvent faire, c'est me condamner et un jour me présenter devant Dieu au grand trône blanc et avoir la bouche fermée, clouée, puis de pouvoir rien dire à part d'accepter mon éternité sans Dieu. Son œuvre permet que je ne sois pas assis au grand trône blanc et que le jour où je meurs, dans Jean 5, 24, je passe de la mort à la vie, que je ne vienne jamais en jugement. En échange d'une œuvre, et ça, c'est à envier chez les Galates, mais aussi à ceux qui vont à l'Église Grâce et Vérité et à tous les croyants en Jésus-Christ qui ont placé leur confiance en lui pour la vie éternelle. Et ça, c'est à envier. Parce que comme ça choque le plus grand frère qui dit, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai essayé de toujours marcher droite, puis l'autre qui est allé dépenser ton bien avec des prostituées, lui tu fais une fête en son honneur. Et le père va répondre, ton frère était mort, maintenant il est revenu à la vie. Hein? Puis toi je peux faire un party n'importe quand. Quand tu veux, on fait un party pour toi, pas de problème. Fait que le cœur du père était autant pour le frère aîné que pour le plus jeune, mais ça vient choquer celui qui a tout fait, celui qui a toujours essayé de ne pas échouer, puis il voit l'autre qui reçoit la grâce que lui aussi a besoin, mais qui est moins, c'est moins évident, là. Je veux dire, moi, je marche droit, tu sais, mais lui, c'est évident qu'il a besoin de la grâce, mais moi aussi, j'en ai besoin. C'est ça qui arrive. Le frère aîné en a besoin aussi, mais ça choque le grand frère, hein? Et donc, le premier à haïr la grâce de Dieu dans la Bible, c'est celui qui, après un seul péché, est destiné au lac de feu et qui regarde ceux qui ont péché de multiples fois et qui sont destinés à la vie éternelle. Je veux dire, celui qui haït le plus la grâce de Dieu, c'est le diable. Un péché, lac de feu pour l'éternité. Vous, après de multiples péchés, le pardon, vous revenez à la maison et Dieu vous donne la vie éternelle. Pas que vous ayez fait ça pour le mériter, mais puisque vous avez fait ça, ça ne vous a pas empêché de recevoir le pardon en Jésus-Christ. Et donc, c'est la chose la plus haïe par le diable. Donc, l'œil mauvais est d'abord celle du diable, qui est l'ennemi juré des croyants qui ont été pardonnés après de multiples fautes, premièrement. Deuxièmement, ceux qui se confient dans leurs œuvres puis qui sont jaloux que les Galates l'aient reçu simplement en acceptant qui Jésus-Christ est. L'œil mauvais, c'est celle du malin qui ne veut pas que l'homme sorte d'un état de condamnation et qu'il reçoive gratuitement le pardon des péchés. L'ennemi de Dieu, l'ennemi dans votre vie, votre ennemi, le diable, ne veut pas que vous réalisiez que Dieu vous donne son esprit par Jésus-Christ, qui vous donne la plénitude par Jésus-Christ, qui vient de faire des œuvres merveilleuses dans votre vie, par grâce, par Jésus-Christ et par l'Esprit qui a fait habiter en vous. Et donc, il va essayer, s'il ne peut pas vous empêcher d'être sauvé, il va vous essayer de vous empêcher de porter du fruit pour Dieu. Comment? En vous faisant rester dans un état de condamnation. Est-ce que vous êtes condamné? Non, mais vous pouvez vous sentir condamné parce que l'ennemi numéro un de la grâce de Dieu pour que vous puissiez porter du fruit, c'est le malin qui va essayer de vous faire rester dans un péché, il va rester dans une pensée que vous n'êtes pas pardonné. Il va vous user comme ça et vous ne verrez pas les œuvres de Dieu. On ne verra pas ce qu'il y a sous le capot. Puis, on va se priver de l'Esprit de Dieu qui l'a fait habiter en nous. Donc, il faut comprendre que peu importe, que même si tu es sauvé, ça s'adresse à toi, même si je parle aujourd'hui ici de la vie éternelle, tantôt je vais parler de porter du fruit, puis après ça je vais parler de voir les œuvres merveilleuses de Dieu. Mais il faut comprendre une chose, c'est que c'est le diable qui est le premier ennemi. C'est pour ça que ce n'est pas surprenant que le diable se déguise en ange de lumière et il fait de ses ministres des ministres de justice. Dans 1 Corinthiens 11, 11, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise en ange de lumière et il amène une doctrine. Une doctrine, c'est un enseignement de la parole de Dieu. Il va amener un enseignement de la parole de Dieu et ses ministres à lui vont être des ministres de justice. Ils vont venir prêcher. Ils vont prêcher dans les églises. Ils vont enseigner que ce qui plaît à Dieu, c'est une justice produite par le croyant. Et ce qui va arriver, c'est que ne reconnaissant pas la justice divine, ils vont établir leur propre justice, comme le livre de Romains va nous dire. C'est pour ça que c'est super important. 2 Corinthiens 11, 13, j'ai dit 2 Corinthiens 11, 11, mais c'est 2 Corinthiens 11, 13. Satan, il se déguise en ange de lumière, donc tu penses que c'est un ange de Dieu. Et ses messagers sont habillés avec des vêtements de justice. Ça a l'air tout propre. Il faut vivre une vie consacrée pour Dieu. Il faut vivre pour Dieu. Il faut avancer pour Dieu. Il faut lire notre Bible pour Dieu. Ça a l'air tellement tout pour Dieu, cette affaire-là. Mais tu regardes en dessous du capot, il n'y a pas de relation avec Dieu. Il renie ce qui en fait la force. Ce qui fait la force, ce n'est pas tout ce qu'on a énuméré au début. Ce qui fait la force, c'est la mise à part qui est en dessous du capot. C'est « un matin, je prêche parce que j'ai besoin que le Saint-Esprit vienne puis que c'est lui qui parle. Aujourd'hui, j'écoute parce que le Saint-Esprit est là puis il éveille le cœur de l'homme ou de la femme pour qu'il puisse comprendre ce qu'est la parole de Dieu. » Mais la Odyssée dans l'Apocalypse, c'est une église qui se pense riche. Elle a des programmes, elle a plein de choses, elle se pense super. Mais Dieu dit, parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle, aveugle et nu, parce que tu penses que tu vois, mais tu ne vois pas. Donc, un ministre de justice, ça peut être simplement quelqu'un qui nous encourage, qui nous stimule à vivre une vie consacrée, mais en arrière de ça, il n'y a pas cette communion avec Dieu dans la parole, par la foi dans la parole, au moyen du Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, je continue. Aux yeux de qui? Le passage dit, aux yeux de qui Christ a-t-il été peint comme... Ah, je l'ai, je pense, à l'écran. Aux yeux de qui Christ, Jésus-Christ a-t-il été peint comme crucifié? Ça, c'est intéressant, ça. Vraiment, là, ici. C'est pas une peinture. Nous, on voit une peinture, mais en fait, c'est une annonce qui a été placardée. C'est quelque chose qui vous avez reçu cette information-là. Et donc, Paul, il dit, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc, il dit ici, vous avez été ensorcelés, vous, qui aux yeux de... Ben, dans le fond, la question va avec ça ici. Qui vous a fasciné? Donc, qui a peint Jésus-Christ comme crucifié ou qui a placardé une annonce? C'est-à-dire que Paul est venu dans Acte 14, il a prêché, puis il a dit qui Jésus était et ce qu'il avait fait pour eux. Et c'est comme ça que les Galates se sont tournés vers Jésus-Christ, ils ont reçu le pardon de leurs péchés et ils ont reçu le Saint-Esprit. Hein? Et donc, vous avez reçu cette annonce-là. Et donc, ça rappelle le moment, cette annonce-là, on faisait ça quand... Cette annonce-là était faite quand on disait à une personne qu'elle n'était plus en responsabilité financière de son fils. Donc, à partir du moment où il tombait majeur, puis il n'avait plus de responsabilité financière, il y avait une annonce qui était placardée comme quoi que sa dette était affranchie, si on peut dire. C'est pas sa dette, mais sa responsabilité. Et c'est quoi que les Galates ont entendu? Que leur dette envers Dieu était payée, qu'elle était affranchie. Et donc, ils ont été libérés à ce moment-là et ils ont compris quand Paul est venu leur prêcher, ça. Une annonce leur a été faite, et c'est ce qui est arrivé dans Acte 14, c'est ça. Ça ici, Paul est en train de dire, depuis que vous avez compris ça, depuis que vous avez compris que Christ avait été crucifié, pourquoi est-ce que vous retournez à la loi d'avant? Okay. Prochain verset. Ah, puis ici, c'est intéressant, c'est comme le crucifié. Dans l'original, c'est autant, je l'ai-tu marqué? Le temps dans lequel c'est traduit, ça veut dire qu'il n'est pas celui qui a été crucifié, mais c'est le crucifié. Et encore, quand on lit dans l'Apocalypse, on voit qu'on voit encore les marques, on voit encore les plaies de sa crucifixion. Et Jésus n'est pas celui qui a été crucifié, il est le crucifié pour vos péchés encore aujourd'hui. Il est encore, pas qu'il est en train de payer, mais que sa crucifixion tient pour... Il est le crucifié. Okay? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Et donc, Paul dit, OK, rappelle-toi. Quand tu as reçu l'Esprit, la première fois que tu as reçu l'Esprit, la seule fois, est-ce que c'était parce que Dieu avait fait l'inventaire minutieux de ta vie puis il avait vu que tu avais été à la hauteur? Et le Galate de répondre, non, pas vraiment. J'avais besoin d'être pardonné. J'ai compris qu'est-ce que Jésus-Christ a fait. J'ai reçu son pardon. Mes péchés étaient enlevés. Il n'y avait plus de péché. Dieu m'a envoyé son Saint-Esprit. Donc, normalement, ils appellent à leur cœur, puis ils sont en train de se rappeler. Rappelle-toi, tu as commencé comme ça. Parce qu'eux, ils croient le contraire. Puis il dit, en passant, il leur dit, je veux apprendre de vous. C'est comme s'ils s'assisaient à votre place, puis là, ils disaient, venez, enseignez-moi. Là. Dites-moi, quand vous avez reçu l'Esprit, là, c'est-tu parce que vous aviez vécu une vie à la hauteur, là, ou bien non, c'est parce que vous avez entendu la prédication de la foi? Ici, lorsqu'on étudie ça ici, ça pourrait être deux choses. C'est qu'il y a eu une prédication qui a été faite, puis pendant ce temps-là, ils ont mis leur foi. Mais l'autre est peut-être mieux dans le contexte. C'est le contenu de cette prédication-là que Paul a fait. C'est le contenu du message de la grâce. Hein? Et donc, ils ont ajouté leur foi à ce moment-là, puis c'est là qu'ils ont reçu. Donc, ouais, c'est vrai. Quand on a accepté le Seigneur, dans le fond, on a juste cru qu'on ne pouvait pas se sauver soi-même, que Christ était mort sur la croix et ressuscité pour nous autres. Ça va. Il dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ah, OK. Je lis ça. Je pensais que j'avais mis le passage. Dans Actes 2, au verset 31, quand que les chrétiens ont été rassemblés, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Hein? Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Je ne vais pas vraiment beaucoup parler de ça aujourd'hui. Il s'est passé deux choses cette journée-là. Ils ont reçu l'Esprit pour faire partie de la famille de Dieu. Deux, ils ont été remplis du Saint-Esprit pour exercer un ministère envers les gens qui venaient de d'autres endroits. Ils ont vu les œuvres miraculeuses de Dieu. Dans le livre des Actes, vous voyez souvent ça. Ils reçoivent l'Esprit-Saint, puis, comme les disciples de Jean-Baptiste, ils n'avaient pas reçu l'Esprit-Saint. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un Esprit-Saint. Ils avaient juste été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Donc, ils se faisaient baptiser pour un Messie qui allait venir, mais après ça, ils n'ont pas rien entendu. Puis là, ils ont dit, non, il y a le Saint-Esprit, pas le prier. Et en même temps qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit pour l'œuvre du ministère. Ça va être le troisième point dans mon message. Okay? Et on n'est pas là. Mais au verset 31, il dit ceci, dans Actes 2. Une fois que tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe, parce que tout le monde les entend parler dans leur propre langue, ce n'est pas des langues inintelligibles que tout le monde dit, tout le monde en même temps, hein? Mais ce sont des paroles que chacun entend, chacun dans leur propre langage. Et au verset 32, il dit, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. » Donc là, ce qui se passe, Jésus-Christ meurt sur la croix, Dieu le ressuscite, donc il meurt pour nos péchés, on reçoit le pardon de nos péchés. Il est enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité pour notre justification. Puis, il est assis à la droite du Père pour notre plénitude. C'est-à-dire que Jésus-Christ, une fois qu'il est assis à la droite du Père, il reçoit du Père le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, on voit le Père dit, « OK, va voir Jésus. » Là, Jésus, il prend le Saint-Esprit, il dit, « OK. » Autrement dit, ce qu'il lui dit, c'est lui qui distribue le Saint-Esprit à ceux qui croient. Donc, grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et c'est ce qui s'est passé quand les Galates ont cru. C'est ce qui s'est passé lorsque vous avez cru, vous avez reçu la troisième personne de Dieu dans votre cœur. Et ça, c'est ce qu'il y a sous le capot. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, vous avez reçu l'Esprit. Est-ce que vous l'avez reçu parce que vous aviez vécu une vie par les œuvres, ou bien non, vous avez placé votre foi dans le message de la grâce, et donc c'est ça qui s'est passé. OK. Deuxième point. Ah, je l'avais à l'écran. Voilà, c'est ça. Deuxième point, Paul, il fait appel à leur salut, mais là, il fait appel à leur marche chrétienne. La marche chrétienne. Okay. Hein? Et le prochain argument de Paul, c'est qu'on a besoin du Saint-Esprit pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Prenez l'exemple ici de deux livres. Vous allez à la bibliothèque, à la librairie, vous achetez deux livres, mais vous partez avec juste un. Est-ce que les deux livres sont à vous? Oui. Donc, vous pouvez en tout temps retourner chez le libraire puis de dire, excuse-moi, j'ai payé déjà, peux-tu le récupérer? Et beaucoup de chrétiens vivent avec le premier don, c'est-à-dire, j'ai reçu le pardon de mes péchés, puis j'attends que Jésus revienne pour me chercher. Mais il y a la marche chrétienne aussi par le Saint-Esprit, par grâce au moyen de la foi dans le message de la grâce. Okay? Fait que ici, c'est là que nous autres, on a besoin de dire, OK, puis comme les Galates qui ont commencé en disant, il n'y a rien en moi qui peut faire que je vais être sauvé, j'ai besoin de la croix, mais il faut qu'ils continuent à dire, il n'y a rien en moi pour porter du fruit, à moins que je m'attache à mon Sauveur, à moins que je communie avec Dieu par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Et donc, la marche chrétienne n'est pas le fruit de mes efforts, il est le fruit. Quand Galates continue au chapitre 5, puis il veut mettre en contraste la chair, puis le Saint-Esprit, il va dire que le Saint-Esprit produit des fruits, tandis que la chair produit des œuvres. C'est intéressant de faire la différence. Il y en a un qui produit des fruits, il y en a un autre qui produit des œuvres. Et donc, vivre une vie chrétienne par mes propres efforts, c'est une vie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une vie qui vient de mes efforts. Oui, il y a des efforts à faire, mais les efforts qui sont à faire sont à demeurer en Christ, demeurer dans sa parole, rester dans la piété, dans la parole, dans la prière et s'attacher à notre Dieu pour que ces choses-là puissent être le fruit de notre relation avec lui, qui vont produire en nous le fruit de l'Esprit-Saint. Et donc, si on oubliait un des deux livres, on peut toujours, parce que les deux ont été payés, aller chercher le deuxième, n'importe quand, puis dire, « Hey, sais-tu quoi? J'ai besoin, comme les Galates, j'ai besoin de comprendre que j'ai peut-être laissé le deuxième sur le comptoir, mais ça a été payé pour moi aussi. » Vivre de l'ascension de Jésus-Christ, c'est-à-dire recevoir de son esprit pour vivre dans une vie victorieuse. Le premier livre, on va dire que c'est Dieu qui vient habiter dans ton cœur par le Saint-Esprit. Le deuxième, c'est lui qui vient te remplir de la force du Saint-Esprit qui est déjà en toi pour que tu puisses vivre une vie victorieuse sur la tentation, que tu puisses vivre une vie transformée, que tu puisses vivre une vie consacrée, que tu puisses être tranquillement semblable à la personne de Jésus-Christ. Donc, Paul va développer sur le fruit du Saint-Esprit dans le chapitre 5. Il va donner 9 caractéristiques de c'est quoi une personne qui abonde du fruit de l'Esprit. On va le voir plus tard. Mais ici, il dit au verset, « Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? » C'est intéressant. Ici, c'est le mot que tu as utilisé, Patrick, tantôt. C'est « se mettre à part ». Ici, c'est dans le fond « finir par la chair ». Donc, il dit « Vous avez commencé. Comment? » Bien, vous avez cru, puis vous avez reçu par grâce que vous ne méritiez pas le pardon de vos péchés, vous avez reçu le Saint-Esprit. Deuxièmement, vous allez finir comment? Et le mot pour finir ici, ça veut dire « maturer, rendre complet ». C'est comme remplir un verre d'eau. Donc, vous avez commencé par la grâce de Dieu, parce que vous ne méritiez rien et vous n'aviez rien en vous pour le faire, allez-vous continuer en pensant que là, vous pouvez y arriver, que vous êtes capable d'y arriver par vous-même? C'est ça que Paul est en train ici de dire. Est-ce que vous pensez que vous allez arriver à une certaine maturation, une certaine mise à part? Est-ce que vous allez être rendu à un endroit où vous manque de rien, que vous êtes complet? Paul, dans ses écrits, va souvent parler de... Je ne sais pas si je l'ai écrit ici. Les synonymes qui sont utilisés pour ce mot-là. C'est dans mon document d'étude. On va le voir. Les mots qui sont utilisés. Maturer, vivre une vie balancée et mature. C'est pas mal ça. Pause mentale ici. Ah, je l'ai. Parfait. Donc, une vie complète, une vie remplie. Paul, c'est ça. Donc, est-ce que vous pensez que vous allez avoir une vie pleine, une vie remplie, parce que vous avez commencé à suivre la loi de Moïse, Galates? Est-ce que nous, on va penser que avoir une vie, si je ferais ceci, si je ferais cela, si je me consacrerais plus, si je ferais ça, là, je serais plus comblé. L'inverse est vrai. Si je suis plus comblé par mon Dieu, si je suis assis avec Dieu dans les lieux, avec Christ dans les lieux célestes, si je profite de ma communion par la prière et la parole, si j'ajoute foi à la parole de Dieu, je vais être fortifié par l'Esprit et je vais être dans la plénitude. C'est ça ici qu'il est en train de leur dire. Voulez-vous devenir plus mature, plus complet, sans aller à Dieu. C'est un peu ça qu'il est en train de leur dire ici. Le Galate tentait de marcher dans une équité, dans une poursuite morale, mais il le faisait dans les limites de sa propre nature, dans sa justice. Car lorsque nous étions dans la chair, Romains 7,5 dit, « Les passions et les péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Moi et la Bible laissée à moi-même, ça fait juste provoquer les convoitises qui sont en moi. Moi, la Bible et la foi en Dieu, dans ma communion avec Dieu, puis demander à Dieu, « Hey, fais-le dans ma vie. » Oh, attention, j'ai reçu le Saint-Esprit en moi pour pouvoir faire ces choses-là. Merveilleux. Dernier point, les œuvres puissantes. On a vu le ministère de l'apôtre Paul quand il est venu, grosso modo, tantôt dans Actes 19, Benoît nous a lu comment la parole s'était répandue en Asie et quand c'est écrit « la parole grandissait en puissance », c'est tout de suite après que les gens, on les voyait transformés, qu'ils brûlaient les choses de magie, qu'ils avouaient leurs fautes, hein, qu'ils changeaient, il y avait des changements qui se passaient. Hein. Et donc, il y a la délivrance de la puissance occulte. Ceux qui étaient malades à cause des esprits impurs étaient guéris et le malin sortait d'eux. Le nom de Jésus était puissant. Puis ces petits porte-bonheurs-là, ils ne servaient pas à grand-chose, fait qu'on les a brûlés. La vraie autorité contre le monde occulte dans un monde d'esprit, parce qu'on est quand même dans un monde où ce que, il y a le tiers des anges sont des démons. Et dans Éphésiens, ce sont écrits comme étant des... Nous sommes dans les lieux spirituels célestes, déjà, tu sais. Quand on a accepté le Seigneur, on est dans les lieux célestes, et eux aussi. Les lieux célestes, ce n'est pas à quelque part, c'est juste une sphère... spirituelle dans laquelle on cohabite avec les anges. Et donc, cette autorité contre le monde occulte, c'est le nom de Jésus, c'est la foi en Christ. Et Paul rappelle aux Colossiens que la puissance qu'a eue la parole, quand que Paul y est venu dans Actes 14, ils ont vu sûrement ce que les autres ont vu à Éphèse, des gens qui étaient possédés de démons, être délivrés. Ils ont vu probablement des gens se détourner de la magie de la même manière. Tout ça, il leur rappelle d'une certaine manière celui qui vous accorde l'Esprit. Donc, vous avez reçu l'Esprit? Continuez par l'Esprit. Mais là, il dit celui qui vous accorde l'Esprit, puis il est quand même en train de dire celui qui donne l'Esprit quand on croit, c'est le même qui vous accorde l'Esprit quand vous en avez besoin pour une œuvre miraculeuse dans votre vie, une intervention divine. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C'est-tu parce que vous êtes rendu, vous avez fait du ménage dans votre vie puis qu'il n'y a plus rien à reprocher que là, Dieu peut agir de façon miraculeuse dans votre vie? Non, c'est encore par grâce, c'est-à-dire on a besoin d'être pardonné, on a besoin de sa grâce, on a besoin que son esprit puisse répondre à nos prières, qu'il puisse venir faire le ministère au travers de nous. Donc, celui qui accorde l'esprit premièrement pour être sauvé et celui qui accorde l'esprit, il le fait par la prédication de la foi. Dans Acte 2, c'est ça qui s'est passé. Il s'est passé qu'ils ont reçu l'Esprit parce qu'ils ont cru. Et il y a déjà eu des œuvres miraculeuses. Mais le gars qui n'avait pas fait du ménage dans sa vie, il ne s'était pas mis en règle, je veux dire. Ça se passait là. Ben, il y a eu l'occasion de servir Dieu par le parler en langue, qui n'est pas nécessairement nécessaire aujourd'hui, mais qui pourrait l'être si jamais on était confronté à différentes cultures puis on se parle pas entre nous. Mais s'il l'a fait, c'est parce que ces gens-là ont cru au message de la grâce de Dieu pour eux et non pas parce qu'ils avaient atteint un certain degré de perfection. Et celui qui opère, ça veut dire celui qui fournit abondamment. Dans l'original, c'est celui qui fournit abondamment, puis les miracles, c'est des merveilles aussi. C'est utilisé pour le mot merveille, puis miracle. Donc, celui qui effectue des miracles au milieu de vous, il le fait-tu par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Le message aujourd'hui qui est important de retenir, c'est que ce soit... Quand vous êtes venu à Jésus-Christ, vous avez reconnu votre impotence. De la même manière, il faut reconnaître cette impuissance-là pour votre croissance. Sans toi, Seigneur, je vais rester le même. Je vais peut-être changer extérieurement, mais mon caractère ne changera pas et je ne deviendrai pas semblable à l'image de Jésus, à moins que ce soit ton esprit. Et ton esprit le fera seulement en présence de la foi et de la parole de Dieu. Donc, je vais avoir besoin d'une diète de la parole de Dieu dans ma vie. Et troisièmement, les interventions puissantes de Dieu dans ma vie vont être aussi basées sur le fait que tout nous vient de Dieu. Puis c'est le fun, parce que ça vient écoute ce que Ben a dit sur l'offrande. Quand il nous a commencé à nous poser la question sur qu'est-ce qui vient de Dieu, l'air qu'on respire, la matière première de tout ce qu'on construit, Puis il ne savait pas que je préparais ce message-là. Puis en plus, le message de mercredi avec Pasteur Pat, c'est la même affaire. Hein? Donc, ça nous vient de Dieu. Ça nous est donné par grâce au moyen de la foi. Et notre foi, c'est notre foi dans le message de la grâce de Dieu, justement, puis de la parole de Dieu révélée dans le Nouveau Testament. Amen. On va fermer les yeux ensemble. On va terminer avec un mot de prière. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez, mais comme les Galates, vous avez été appelés ce matin à vous rappeler la première fois que vous avez accepté le message de la croix et que le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Rappelez-vous, vous n'avez pas reconnu que vous étiez la meilleure personne au monde pour avoir reçu ça. Aujourd'hui, on a besoin de faire cette mise au point, puis de dire, OK, pour ma croissance, dans ma marche avec Dieu, il y a quoi sous le capot? Est-ce que je pense que je peux arriver à plaire à Dieu sans l'aide de Dieu? Peut-être qu'on va tous dire non. Mais non, c'est sûr qu'on a besoin de son aide. OK. À partir de là, est-ce que tu te confies dans la parole de Dieu et dans la prière parce que tu as vraiment besoin de lui pour pouvoir opérer dans ta marche, porter du fruit, dans ton mariage, dans ton ministère? Troisièmement, nous avons besoin de l'intervention divine de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Est-ce que on va trouver une personne qui essaye toutes sortes de choses, puis en dernier, elle dit, bah, il n'y a rien qui a marché, fait que je vais aller à Dieu? Ou on trouve une personne qui se confie en Dieu parce qu'il a besoin de voir Dieu agir de façon merveilleuse. Comme on a commencé, on doit aussi continuer. Et c'était le défi pour Galates, puis c'est notre défi aujourd'hui. De ne pas aller sur notre propre gaz, mais de se confier en celui qui est mort et ressuscité. De se rappeler qu'en dedans de moi, il y a le Saint-Esprit, et j'ai tout ce qu'il faut pour vivre une vie dans la foi au Fils de Dieu. Je te remets à la grâce de Dieu, cher ami, afin que tu puisses, comme tu as commencé, continuer à te confier dans le Fils de Dieu et dans sa résurrection, mais aussi dans son ascension. Et si tu reçois la force qui vient de Dieu, ben c'est pas à cause de tes mérites, mais parce que Dieu a accepté sa résurrection et a accepté de lui remettre le Saint-Esprit pour qu'il te le disperse sur toi, si on peut dire. Donc, si on te voit rempli du Saint-Esprit, ça, on va réaliser que c'est parce que Dieu rend témoignage à son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts. C'est tout. C'est pas à cause de ta marche, nécessairement. Mais parce qu'il est toujours prêt à pardonner et te remplir. Maintenant, on a parlé dans mon message de l'accusateur qui vient pour user les croyants. Peut-être que tu es à cet endroit-là où tu te sens indigne de marcher avec ton Dieu. Eh bien, ça vient d'un œil mauvais. Et cet œil mauvais-là, c'est le malin qui veut te priver de vivre ta vie pleine avec Dieu. Accepte sa grâce. Accepte que c'est par grâce que Dieu deal avec toi. Il va répondre à tes prières par grâce sur les mérites de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dîner.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.grâceetvérité.org.